Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmoun.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Esclavage, quelles sont les limites des mesures prises pour faire face au phénomène? C'est le thème central de notre émission, le Grand Dialogue de ce soir. Le 2 décembre est la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Cette journée a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 1949. Elle vise à vulgariser et sensibiliser l'opinion sur les graves violations des libertés individuelles, en particulier le trafic des enfants et des femmes. Quelle est donc la situation au Mali? Qu'est-ce qui explique les récentes tensions contre l'esclavage? Pour en parler, nous avons fait appel à trois personnes. Lassine Kounaté, porte-parole de l'association Gabana, un regroupement qui lutte contre l'esclavage. Docteur Yacouba Dogoni, sociologue et chercheur. Au téléphone, nous avons Mokhtar Mariko de l'AMDH. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
La première question sera adressée à vous, docteur. Qu'est-ce qui explique que cette pratique qui existait depuis longtemps est aujourd'hui décriée?
Très bien. Bon, je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation. Également, remercier tous les téléspectateurs du studio Tamani qui travaillent beaucoup plus avec les communautés pour les informations. Et je tiens également à remercier les autres co-débatteurs qui sont présents et celui qui est aussi au téléphone. C'est aussi une occasion pour moi aussi de joindre ma voix à tous ceux qui sont là, qui font des réflexions, qui mènent des réflexions sur la question de l'esclavage au Mali et aussi qui contribuent aussi à l'éradication du phénomène. Pour revenir à votre question, qu'est-ce qui explique? Moi, je pense que l'explication doit être cherchée dans la médiatisation. Je pense qu'il y a une forte... un fort réseau maintenant d'informations qui s'est créé au Mali pour pouvoir réprimer ces pratiques esclavagistes. Ça, c'est d'abord la première explication qu'on peut donner. Ensuite, ce qu'on peut ajouter à cela, c'est aussi l'approche que les ONG, par exemple, ont adoptée sur le terrain, qui n'est pas, selon mon point de vue, adapté à la situation. Donc, parce que souvent, on filme des scènes de violence, on les met sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça crée souvent des révoltes au niveau des acteurs qui perpétuent cette pratique-là et aussi des victimes qui cherchent aussi vraiment à se révolutionner contre la pratique, alors que ce n'est pas une pratique qui est très récente, c'est vraiment une pratique qui est liée ou même à l'organisation sociale même des communautés au niveau des siècles ou des régions où la pratique est beaucoup plus présente de nos jours.
Maître Mokhtar Mariko de l'AMDH, vous participez à cette émission au téléphone. Vous venez d'entendre Dr Dogoni. Selon vous, qu'est-ce qui fait que cette pratique qui existait est décriée aujourd'hui? Maître Mokhtar Mariko, vous êtes avec nous? Le temps d'avoir Maître Mokhtar Mariko, nous continuons avec le cours normal de cette émission. Le temps de faire réagir le porte-parole de l'association Gabana. Monsieur Lassina Konaté, qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème?
Merci. Je remercie tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent sur cette émission. Et si c'est possible, moi je voulais m'exprimer en bambara, et c'est possible. En bambara, ou bien c'est pas bon?
Essayez de parler parce que
parce que la langue française, souvent, j'essaie un arabophone. Voilà la raison pour laquelle je ne maîtrise pas la langue française.
Juste parler le français que vous pouvez, il n'y a pas de souci.
L'origine de ces problèmes-là, c'est nous, en région des Kay. Moi, je peux dire que c'est les choses, nous, quand même, on a trouvé ça là-bas, depuis des siècles. Parce que l'esclavage par ascendance aux régions des Kay, notre arrière-grand-parent, ce qu'on a eu comme explication, il dit, comme exemple pour moi-même, mon arrière-grand-père, il est venu, c'est un étranger, il n'est pas soniqué d'origine. C'est le soniqué, si tu es venu, si tu es un étranger seulement, arrivé au village, quand tu dis là-bas, tu as fait des années, ils vont essayer de donner une femme qui est esclave. Après le mariage de 5 ans, 6 ans, tes enfants deviendront comme esclaves, comme ça, c'est nous. On peut dire l'origine de ce problème-là, c'est ça. Les étrangers qui sont quittés d'autres villages pour venir installer ces soniqués, les dérives des esclavages par ascendance viennent de ce point-là.
Vient de ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce problème-là qui était... qu'il n'y avait pas de tension autour de ça avant, aujourd'hui, il y a des tensions.
Il y a des tensions parce que pourquoi on est en 21e siècle. Au temps, le temps de notre père, mon grand-père, nous, on n'a pas eu de sens d'aller étudier même un peu. Nous, quand même, on suivre les maîtres comme ça, voilà, on ne part pas à l'école, on n'a pas de droit d'aller à l'école, on est comme ça. Maintenant, avec le changement de temps, on a eu certaines personnes descendants de l'esclave, ils ont eu des sens d'aller étudier. On a compris maintenant que l'esclavage qui est chez nous, ce n'est pas réalité, quoi. Raison pour laquelle on a essayé de faire une association qui s'appelle Gambana en 2017 pour montrer aux soi-disant les maîtres de dire que cet esclavage qui est chez nous, c'est pas nous. Désormais, on ne peut pas assumer encore parce qu'on sait que c'est pas vrai. Voilà la raison pour laquelle il y a eu tension pendant ces 3 années.
On me fait signe que Maître Mokhtar Mariko de l'AMDH est avec nous. Maître Mokhtar Mariko, vous participez à cette émission par téléphone. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la pratique de l'esclavage qui existait est aujourd'hui décriée? Maître Mokhtar Mariko? Alors, Monsieur Dogoni, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui cette tension entre communautés suite à l'esclavage?
Bon, moi je pense personnellement que le problème qui se pose actuellement et qui est à la base de l'effervescence de cette pratique aujourd'hui, c'est, comme il a dit, c'est vraiment la prolifération des canaux de communication. Auparavant, les gens vivaient dans des circuits assez fermés, ce qui faisait que même s'il y avait la pratique, en réalité, ce n'était pas vulgarisé comme on le voit aujourd'hui. Avec Facebook, aujourd'hui, les gens utilisent Facebook comme étant un espace virtuel qui est capable maintenant, quand on balance une information, ça peut atteindre un grand groupe d'individus alors qu'ils vont s'informer au même temps. Donc ça, c'est vraiment un phénomène qui a beaucoup contribué à l'éveil de conscience, à la prise de conscience du phénomène. L'autre chose qu'on peut dire aussi, c'est, comme il a cité le cas de Gambana, c'est aussi la création des groupes WhatsApp aussi, alors qui ont été créés par des différents acteurs qui sont concernés par les fléaux et qui se partagent des images, souvent des vidéos qui sont vraiment très, très difficile à voir, qui se partage dans un groupe assez restreint, mais qui finit par aussi diffuser ces images-là sur d'autres groupes. Ça, c'est aussi un élément qui explique ça aussi. Maintenant, une fois qu'on est là, il y a des actions de répression qui sont entreprises par les autorités, et ces actions de répression aussi sont aussi des sources des tensions entre les populations. Parce que si vous voyez par exemple une image ou vous voyez par exemple un individu alors qui se fait bastonner par quelqu'un d'autre et que vous dites par exemple que voilà, il faut amener la police, il faut amener les gendarmes pour arrêter cet individu-là, bon, en arrêtant, vous créez d'autres tensions. Donc c'est pour dire qu'en réalité, c'est l'approche de façon globale qui n'est pas la bonne, et c'est cette mauvaise approche aussi qui contribue réellement à expliquer l'intensification de la pratique esclavagiste dans beaucoup de localités.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être les conséquences de cette pratique-là au sein de nos sociétés?
L'une des conséquences que nous avons observées, c'est d'abord le repli identitaire. Aujourd'hui, nous avons tendance à voir dans beaucoup de zones où les gens commencent à s'organiser entre communautés, entre catégories sociales qui perpétuent, qui sont considérées comme étant des acteurs de l'esclavagisme, et aussi d'autres acteurs qui sont considérés comme étant des victimes. Donc, les gens commencent maintenant à s'organiser pour se défendre. Vous dites par exemple que voilà, celui-là est mon esclave. La personne vit dans une communauté. En vivant dans une communauté, alors sa communauté aussi va se mobiliser maintenant pour essayer alors de lutter contre la pratique qu'ils subissent. Il y a aussi d'autres choses qu'il faut aussi dire, c'est que quand la question de la répression dont je vous ai parlé tout de suite, cette question de répression est aussi à la base aussi de la révolte d'autres communautés. Vous réprimez les individus, vous les arrêtez, vous les emprisonnez parce qu'ils ont perpétué, je ne sais pas, une pratique esclavagiste. Vous les arrêtez à cause de cela. Et alors si vous les arrêtez, vous n'allez pas contribuer quand même à lutter contre le phénomène, mais plutôt à créer ou bien même à revitaliser la tension entre les individus, entre les communautés considérées comme étant victimes de l'esclavage et communautés considérées comme étant acteurs de l'esclavage. Donc ce sont vraiment ces conséquences-là qui qui vont aussi entraîner ce que nous appelons le vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble existait. Déjà, il y avait ça, mais les gens arrivaient quand même à mobiliser aussi des stratégies, que ce soit sociales, que ce soit des stratégies économiques, que ce soit des stratégies politiques, pour pouvoir lutter contre le phénomène. Mais une fois que vous amenez, par exemple, l'appareil militaire d'État dans la gestion du phénomène, alors vous ne faites qu'aggraver la situation. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Et c'est la conséquence qui fait qu'aujourd'hui, tous les tissus sociaux aujourd'hui au Mali, que ce soit dans la région du Nord, dans la région de Kaï ou autres régions du Mali, alors il y a cette fissure sociale que nous avons observée. Les gens ne s'entendent plus, les gens ne se parlent plus. Il y a aussi des conflits lentes qui commencent maintenant aussi à émerger sur la scène. Donc là, les conséquences sont vraiment... l'enterrement de ce que nous appelons le vivre ensemble au Mali, il n'y a plus de cohésion. Voilà. Donc c'est aussi lié à la stratégie aussi de répression, la stratégie de gestion de la crise esclavagiste que les uns et les autres ont adopté, que j'appelle vraiment la mauvaise approche. Voilà. Et l'autre conséquence, c'est aussi une question culturelle. Parce qu'en diffusant des images de ce genre, ou bien en utilisant, par exemple, de l'acide, voilà, avec l'idée de laisser des traces à la personne, comme par exemple on le fait avec les animaux. Vous jetez, par exemple, de l'acide sur quelqu'un parce que la personne est mon esclave. Si vous faites ça aussi, cette question aussi va... la question de répression ou même la question de vivre l'esclavagisme de façon générale va se transférer, je veux dire, va se transmettre maintenant de père en fils. Parce que, telle que la rébellion que nous avons vue, que nous vivons aussi au Mali. Donc, les gens vont essayer maintenant de transmettre maintenant cette idée ou même cette idéologie négationniste alors de la pratique en leurs enfants. Voilà, parce que les enfants vont voir les traces, ils vont dire, mais papa, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens vont dire que non, c'est parce que quelqu'un me l'a fait. Et finalement, la personne devient rancunée dans le contrôle à celui qui a perpétué la pratique. Donc, ce sont des pratiques qui sont là et qui vont vraiment contribuer à fragiliser le tissu social au Mali, si on n'en prend pas garde. Ça, ce sont vraiment des conséquences. Il y a aussi la conséquence économique qu'il ne faut pas vraiment exclure dans ces débats sur la lutte contre l'esclavage. Aujourd'hui, quand vous partez, par exemple, dans certaines localités de la région de Kaï, où moi j'ai été, dans cette localité, vous verrez que la production économique alors, d'un individu considéré comme étant esclave par ascendance, alors sa production ne l'appartient pas. Sa production appartient à quelqu'un d'autre qui n'est même plus le maître de cet individu. Alors, donc, ça crée des problèmes. Si la personne produit, à un moment donné, au moment de la récolte, on envoie les jeunes récolter ce que la personne a cultivé pendant l'hivernage. Donc finalement, ça crée quoi? L'insécurité alimentaire. Et que finalement, il y a beaucoup qui sont obligés maintenant de quitter le village parce que là, ils ne peuvent pas quand même rester toujours sous l'influence de la faim. Ils sont obligés maintenant de quitter pour aller se réfugier dans d'autres villages. Il y a beaucoup de gens qui sont réfugiés à Bamako aujourd'hui parce que là, ils ont fui la pratique à Kaï ou ailleurs. Là, ils sont réfugiés ici. Mais dans quelles conditions ils vivent à Bamako? Ça, il faut le dire. D'autres ont eu la chance, par exemple, de quitter Kaï pour aller à l'extérieur. Donc, ceux-là qui ont eu la chance d'aller à l'extérieur, ce sont eux qui sont aujourd'hui porteurs de voix, aujourd'hui, des gens qui sont là dans les silences. Parce que c'est le silence qu'il faut aussi prendre en compte dans les réflexions. Le silence d'un individu, considéré comme esclave, c'est le silence qui tue. Parce que la personne vit le phénomène à l'intérieur et qu'elle ne peut pas manifester parce que la personne n'a pas de pouvoir pour pouvoir se défendre une fois le message diffusé sur la scène publique. Donc c'est ce problème-là qui crée. Mais ceux-là qui ont eu la chance de partir à l'extérieur, beaucoup d'entre eux sont revenus riches. Et à travers cette richesse, ils sont parvenus à s'affranchir de l'esclavage. C'est vrai qu'ils ont toujours cette connotation esclave, mais qu'en réalité, dans la pratique, ils ne sont plus soumis à cette pratique esclavagiste. Tout simplement parce qu'ils sont plus riches que les nobles. Et qu'aujourd'hui, le fait qu'ils sont plus riches que les nobles, pendant la nuit, il y a beaucoup de ces nobles-là qui sortent la nuit pour aller s'endetter auprès de ces gens qui sont considérés comme des esclaves. Ça, c'est vraiment une chose. Mais aussi, il y a la chose négative, c'est vrai, mais aussi il faut prendre en compte l'élément de partir et de ne pas dormir sur des oreillettes. Si vous partez, alors essayez vraiment d'entreprendre d'autres actions qui vont contribuer à l'affranchissement de la communauté considérée comme étant esclave par ascendance.
Merci beaucoup, docteur Yacouba Dogoni. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Maître Mokhtar Mariko de l'AMDH, vous êtes avec nous?
Oui.
Merci beaucoup. Nous avons déjà commencé cette émission. Quelle est aujourd'hui, selon vous, la situation de la lutte contre la pratique de l'esclavage au pays?
Bon, moi, je crois que je vais commencer par saluer tous les auditeurs qui portent un intérêt pour ce thème-là. Et je salue tous les figures tabanées. Je voudrais dire ceci. Ce problème est tellement délicat qu'il faut faire extrêmement attention. Moi, j'ai eu la chance de faire une tournée pour aller apaiser les populations avec le ministre de la Réconciliation. Là-bas, j'ai été un peu surpris parce que tout ce que nous considérons comme étant pratique de l'esclavage ont été niés par ceux qui sont accusés d'être esclavagistes. Parce que selon eux, il s'agit de leur coutume et que leur société ou la communauté a évolué en fin de route dans ces conditions. Et que seulement il y a une instrumentalisation qui vient de l'Europe, parce que comme mon co-débatteur vient de le dire, parce que ceux qui sont partis en Europe ont eu beaucoup d'argent, ont y a investi, que c'est ceux-là qui ne veulent pas qu'on les appelle esclaves. Que sinon, en réalité, il n'y a pas de pratique d'esclavagisme par ascendance. Mais quand vous écoutez ceux qui sont victimes, et ils vous diront tout le contraire. Donc, je crois que le problème doit être pris au sérieux. Et comme l'a dit mon co-débatteur, il faudrait d'abord commencer par instaurer un dialogue entre ces communautés-là. Le tout justice ne pourra pas effectivement régler ces problèmes, mais parce que je vais aussi dire que le règlement de ces problèmes ne peut pas aller aussi sans la justice, parce que nous avons constaté des coups et blessures sur le terrain. Nous avons aussi constaté un autre phénomène que les gens ne voient pas. C'est-à-dire, à partir du moment où la justice rentrait en répression, les propriétaires terriens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, il n'y a pas de problème, je vais réclamer mes terres de culture au niveau de la justice. Donc, ils viennent en confirmation des droits coutumiers sur les terres. Et maintenant, le juge, compte tenu des témoignages, est obligé de confirmer ses droits coutumiers sur le terrain et ils viennent en expulsion de ceux qu'on appelle esclaves. Donc, et là, le support juridique est bien établi. Voilà pourquoi je voudrais tout simplement dire qu'il faudrait qu'on aille à un dialogue entre ces communautés. Et que quand il y a des cas de débordement, des cas emblématiques, il faut passer par la justice. Mais ce que je voudrais aussi ajouter, ce problème-là ne peut pas être réglé tant que les autorités ne prennent une disposition pour mettre un frein, une limite à tout débordage, à tout excès, soit dans les langages, soit dans d'autres pratiques. Donc, je voudrais tout simplement dire que nous avons trop négligé ce problème en République du Mali. Il faudrait que nous nous levions. Nous nous levons pour aller parler et être des médiateurs entre ces peuples, entre ces communautés. Si cela n'est pas fait rapidement et urgemment, nous risquons de créer d'autres problèmes. Et comme ça a été annoncé au cours du débat, comme j'ai pris le débat en vol, les gens sont en train de se replier sur eux-mêmes. Ils sont en train de chercher des moyens de défense. Il faudrait qu'on se lève rapidement pour que l'Ouest du Mali ne s'embrase pas. Parce que ce que nous avons constaté sur le terrain n'est pas quelque chose de très simple, n'est pas quelque chose de très visible souvent, mais en réalité, cette pratique existe.
Maître Mokhtar Mariko, vous gardez la parole. Je disais à l'introduction de ce débat que cette pratique de l'esclavage existait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle est autant décriée?
Bon, cette pratique existait parce que le monde évolue et aujourd'hui, nous sommes dans une république. Si dans la charte de Kourou-Kafoua, l'esclavage était bien noté et mis en ligne, Mais il y avait aussi des interdictions qu'on ne pouvait pas. On ne peut pas aller au-delà de certaines choses. Mais aujourd'hui, la réalité a changé. Nous sommes dans une république où nous avons une constitution qui parle de l'égalité de tous les hommes et femmes. Et cette constitution nous dit que nous naissons tous libres et égaux en droit et en devoir. Donc, à partir de ce moment, il va falloir mettre fin à certaines pratiques. C'est-à-dire obliger les gens à les cultiver pour vous et attendre que les gens cultivent pour aller récolter, comment on appelle, les fruits après. Donc, tout ça là est fini avec la République. Donc, voilà pourquoi les gens commence à comprendre qu'effectivement, ils ne sont plus sous le joug de l'esclavage et qu'ils sont libres au regard de la constitution de la République du Mali. Et je le disais tantôt, ceux qui sont allés en Europe et qui se sont expatriés, qui ont eu beaucoup de moyens économiques, donc ceux-là sont venus et ils ne veulent plus qu'on les appelle esclaves. Donc pour eux, les appeler esclaves équivaut à des injures, équivaut à les traiter comme des sous-hommes, alors qu'en République du Mali, tous les hommes sont égaux, libres en droit et en devoir.
Merci beaucoup, Maître Mokhtar Mariko. Vous gardez la parole pour la suite de cette émission. Le temps de faire réagir cette fois-ci le porte-parole de l'association Gabana qui lutte contre la pratique de l'esclavage dans la région de Kaï. Monsieur Lassina Konaté, aujourd'hui, qu'est-ce que ces tensions ont provoqué au sein des communautés sur place?
Ok, merci beaucoup. Et avant d'aller là-bas, moi, celui qui vient de faire le téléphone tout de suite là, il y a certains points, moi, je n'ai pas compris. Il vient de dire qu'il n'y a pas de pratique là-bas. Il y a des pratiques, il y a bel et bien, il y a des pratiques là-bas. Il y a pratique.
Si pourquoi vous pouvez voilà, nous expliquer?
Voilà, comme pratique, c'est nous. Arrivée d'une autorité comme le commandant ou le sous-préfet au village. Ce qui concerne comme considéré comme esclaves, c'est leur femme qui va faire les trucs là, la cuisine et tout ce qui est considéré comme esclaves, c'est nos femmes, nos mamans qui s'occupent de tout ça.
Qui s'occupent de tout ce qui est travail,
voilà.
L'accueil des
étrangers. Ça c'est une pratique.
Étrangers.
Ça c'est un. Deux, s'il y a pas, si ça, c'est pas pratique. Pourquoi nous, au village, s'il y a une grande rencontre comme ça là-bas, au village, nous, on n'a pas accès de dire ce qu'on veut. Nous, on est obligé de suivre le maître. Et ça aussi, c'est comme
donc
nous.
Vous ne participez pas aux rencontres.
Le rencontre. Nous, on va rester dans les rencontres comme quoi, si le chef de village parle, nous comme par exemple mon père, lui, il va continuer comme ça. C'est tout. Hein. Nous, on n'a rien à dire là-bas. On ne peut pas dire rien là-bas. Et même ici, à l'élection, comme ça, comme d'être maire ou dans le village, l'élection locale là, nous, on n'a pas accès de présenter. Tu ne vas faire rien. Quand tu dis, mais toi, tu es esclave. Mais si tout ça, ça peut partir des pratiques. Mais il y a certaines pratiques, comme c'est passé nous. Voilà, ça peut être que lui, il passe autre pratique, mais il y a certaines pratiques qui sont là-bas. Et encore, nos mamans, pour après le décès de nos parents, et ça peut être aussi, mon père est décédé pour faire les mémoires de filière d'après le Bamana, je ne sais pas comment on dit.
Le
Vévage. Voilà. Et ceux qui concernent comme esclaves, il fait 2 mois, 5 jours. Mais les maîtres, c'est 4 mois, 10 jours. Ça fait partie des pratiques. Il n'y a pas certaines pratiques, c'est nous, hein, mais il y a des pratiques qui dégradent les gens, tous les membres de Gamana là-bas. Voilà, faut pas qu'il dise qu'il n'y a pas pratique. Il y a pratique là-bas. S'il n'y a pas pratique aussi, pour que nous, on n'a pas accès d'activer, de cultiver au village. Nous, on n'a pas accès. Depuis qu'on a commencé à dire.
Vous n'avez pas accès aux terres pour cultiver.
Pour cultiver. Moi, ma mère, je vais faire un exemple. Ma mère, 3 ans, il n'est pas cultivé au village. C'est cette année qu'il a essayé de cultiver là-bas. Parce que ses enfants, ils sont adhérés de l'association Gambana. C'est tout. C'est pas lui, c'est lui-même. Comme nous, on est Gambana. Et ils ont retiré son terre, là où il cultive là-bas, de 40 ans, 50 ans. Cette année, depuis 2017 jusqu'à son nous,
cette année qu'on lui a restitué ses
voilà,
terres.
C'est elle, avec le procureur de Samaké, personnel. il est décédé maintenant. C'est lui qui a fait le jugement pour prendre cette terre-là, pour donner à ma mère. Ça, voilà, nous, on n'a pas... faut quand même... Bon, ce qui...
D'après... Au-delà de ça, qu'est-ce que ces tensions ont provoqué au sein de la communauté?
Voilà, les tensions, parce que c'est ça que je dis. Depuis, on a commencé de créer une association comme ça, Gambana, pour lutter pour ce phénomène-là. Tout le monde, on a fait un réseau groupe WhatsApp. Voilà, on va essayer de parler ensemble dans les groupes WhatsApp. Car toi, il faut essayer de parler avec ton maître, de dire comme ça, comme ça, comme ça. On a fait comme ça. Jusqu'à arriver à un certain point, on a essayé de faire sous-section chaque village. On a fait les sous-sections là-bas. Nous, les Bamakois, on coordonne. Si le village de, par exemple, Lani, moi, je vais appeler quelqu'un de Lani. Toi, tu vas être le chef de notre représentant là-bas. Mm-hmm. Bon, tu vas essayer de coordonner tout ce qui est considéré comme esclave. Vous allez faire une réunion. Après la réunion, vous avez dit comme ça et comme ça. Allez, après, vous allez rencontrer votre maître, de dire que bon, ce qui est entre nous, bon, maintenant, j'espère que ça va comme ça. Depuis des années, nous, on est considérés comme esclaves. Bon, j'espère qu'on doit mettre fin. On est en 21e siècle. On a essayé de commencer comme ça. Sauf, il y a certains maîtres ou certains chefs de village, ils ont compris ce qu'on a dit. Ils disent, eux-mêmes, ils disent vraiment, ça, c'est bien. Mais après... Les malfaiteurs, c'est dans les villages, comme il y a personnes qui sont de bonnes intentions, ils ont compris ce qu'on est en train de dire. Mais il y a certains aussi qui disent, non, chef de village, il ne faut pas accepter ça. Si tu acceptes la signée qu'on a, tu deviens comme, libre comme l'autre aussi va essayer de demander la liberté et l'autre aussi va demander la liberté, raison pour laquelle les tensions sont élevées comme ça. Mmh. Voilà. C'est ça qui a provoqué tout ça. Mais nous, on dit quand même, nous, quand même, on va continuer à faire, même s'ils vont retirer leur terre, même les cimetières, même on n'a pas accès à cette, les boutiques qui sont au village, nous, quand même, on va continuer à lutter. Ils ont commencé à faire l'embargo d'abord. Sur tous les membres de Gambana, tu n'as pas accès à l'eau et au consommation. Nous, on va aller au filet. On a essayé de creuser le pire, c'est nous-mêmes. Ils ont de l'argent, nous aussi, on a les mêmes choses. Voilà, on profite comme ça pour inviter des affrontements. Voilà, pour inviter tout ça. Mais à la fin du compte, pour moi, 2018, au moment de l'hivernage, bon, ils ont fait un grand rencontre à Kai, de dire tous les maîtres, il faut retirer leur terre. Ce qui concerne comme esclaves, tout le monde n'a qu'à retirer leur terre. Raison pour laquelle la tension est élevée. Ah si, nous on dit quand même les terres, quand même, nous on ne peut pas laisser ça. Parce qu'on a trouvé ces terres-là à nos grands arrière-parents. Moi j'ai trouvé mon père, il est en train de travailler là-bas. Moi je vais continuer à travailler, c'est tout. Nous on n'a jamais dit les terres appartiennent à nous. Parce que nous, comme on dit, ah, moi j'ai trouvé ça à mon père, il est en train de travailler. Mon père aussi a dit, il a trouvé son père, il est en train de travailler ici. Nous on va continuer à travailler comme ça. Bon, ils ont commencé à tabasser les gens. Nous, le 5 décembre 2020, ils sont allés frapper moi, mes grands frères, 20 personnes, bien tapés même. Ils ont été blessés. Leur image, tout ça est là. Voilà. De dire de ne pas cultiver.
Voilà. Alors, vous venez d'entendre M. Lassine Konaté, porte-parole de l'association Gambana. M. Dogoni, certes, cette pratique à Kai pose problème, mais on sait qu'au nord du pays, elle est également pratiquée. Pourquoi il n'y a pas cette tension-là?
Bon, personne ne peut dire qu'il n'y a pas de tension au nord, sauf que là-bas, la situation est telle que les gens sont arrivés à un stade de la vie où chacun se dit « voici ma position » et chacun se campe sur sa position. Les nobles se disent voilà, « nous sommes des nobles, donc là, nous gardons notre noblesse ». Et ceux-là qui se considèrent comme des esclaves, ils ont continué toujours à servir maintenant cette classe noblesse. Donc c'est ce qui arrive dans les régions du Nord et ce qui fait d'ailleurs qu'il y a moins de tensions au Nord par rapport maintenant à la région de Kai. Parce qu'au Nord, nous avons été là-bas, les esclaves se reconnaissent être esclaves et ils ne sont pas prêts à aller vers maintenant, à affronter, aller dans l'affrontement avec les maîtres. Donc là, chacun exerce la profession qui lui est évolue. Contrairement à ce qui se passe dans la région de Kai. Même dans certaines zones de Kai, par exemple, dans certaines communes, ou bien dans la commune de Djala, par exemple, où j'ai été pendant un mois, dans cette localité, il y a moins de tensions. Il y a moins de tensions parce que J'ai visité des villages qui étaient des villages cibles de mon étude. D'abord, à Djalan, ce que moi j'ai observé, c'est que avec la démocratisation de la vie politique, a fait que certaines couches ont accès au pouvoir. Alors, selon qui ont accès au pouvoir, par exemple les allochtones qui sont là-bas, la communauté considérée entre guillemets comme esclave a pu s'aligner derrière maintenant cet homme qui a eu le pouvoir. Et cet homme est considéré comme étant le protecteur vis-à-vis de l'autre. L'autre phénomène que moi j'ai expliqué au début de mon intervention, c'est la migration. La migration et le retour des migrants a aussi favorisé fortement l'affranchissement de certaines couches considérées comme étant esclaves par ascendance. Donc parce qu'ils se sont enrichis, alors là les gens ont peur. Vous savez aujourd'hui que si vous voulez dominer un individu, ce n'est plus le discours qui prévaut. C'est maintenant le pouvoir d'achat, c'est la capacité économique à pouvoir faire face aux dépenses. Alors une fois que vous avez ces moyens économiques, il y a forcément de la chance que vous puissiez dominer la personne, même si ça ne fait pas partie des caractéristiques socio-économiques que nous avons établies en sociologie de la domination. Autre chose que j'ai pu observer, c'est que dans un autre village que j'appelle Djangoundé, là-bas, c'est... Djangoundé, c'est un village... Non, Djangoundé, ça c'est Djangoundé Camara.
Camara, ouais, je ne sais pas.
Le Djangoundé dont je parle, c'est un village des Djawambé, habité par les Djawambé, ce que vous appelez les Djawaramé. Là-bas, il y a deux grandes familles. La famille Ndao et la famille Dramera, qui sont des familles nobles. Alors, toutes les autres familles qui sont là-bas sont des esclaves. Mais, compte tenu des problèmes qui sont là-bas, c'est que ces deux familles-là, sinon même ces trois familles, la famille des esclaves et les deux familles nobles, c'est que les Dao ne vivent plus dans ces villages-là. Les Dao ont migré dans un autre village, mais ce sont les Dramera qui existent. Là-bas, la chefferie, c'est dans la main des Dramera, les Djawambé. Les esclaves sont les conseillers du chef du village. Vous voyez comment ça fait la paix. Moi, je me dis encore que c'est l'approche qui n'est pas la bonne, en fait. L'approche n'est pas du tout bonne lorsqu'on parle de la violence, lorsqu'on parle de la crise.
À vous comprendre, quand on essaie d'insérer les personnes qu'on appelle, entre guillemets, esclaves dans la gestion de la cité, ça peut créer moins de tensions.
Ça peut créer moins de tensions, parce que c'est ce que les Djawambé ont compris dans ces villages-là. Ils ont dit que nous sommes des éleveurs. Ce qu'ils ont fait, c'est tellement technique, et c'est cette technique qu'il faut... chercher plutôt à vulgariser dans toute la région de Kaï ou ailleurs. Ils ont divisé les villages en deux pôles géographiques, le nord et le sud. Le nord, c'est une zone qui est propice à l'élevage. Et le sud, ça, c'est propice à l'agriculture. Donc, ils ont dit que oui, nous, les Djawambé, nous sommes des éleveurs. Donc, nous allons continuer toujours à élever nos animaux du côté nord du village. Et vous, les esclaves, vous allez... vous installez au sud du village, vous continuez à travailler, à cultiver la terre. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de tension. Mais la seule différence, quand on vous arrive là-bas et que vous pouvez sentir alors, cette pratique esclavagiste, c'est lorsque vous demandez, par exemple, à ces vieux-là qui viennent accompagner les chefs du village, vous leur posez la question. Parce que dans leur culture, c'est que c'est le plus âgé du village qui devient chef du village. Mais vous trouverez que dans ces villages, il y a plus de gens qui sont plus âgés que les chefs du village actuel, mais qui n'ont pas accès à la chefferie. Vous leur posez la question, mais pourquoi vous n'êtes pas esclave, pourquoi vous n'êtes pas chef du village? Ils m'ont répondu, non, c'est un pacte entre nos grands-parents et les fondateurs du village. Nos grands-parents ont juré de ne jamais prétendre à être chef du village. Parce que nous sommes des esclaves, nous savons quel est le rôle de l'esclave dans la communauté. Mais comme le village n'est pas assez grand, donc ils ont quand même laissé le choix à ces vieux-là d'être les conseillers du chef du village, qui est le noble, qui est le maître. Donc ça, c'est vraiment une pratique qu'il faut peut-être chercher à vulgariser, essayer vraiment de créer une sorte de mobilité sociale pour permettre une certaine coordination des actions au niveau des villages pour enfin permettre à ceux qui sont considérés comme étant des esclaves par ascendance, ne plus se les considérer tout simplement parce qu'ils ont aussi accès à une par une partie du pouvoir alors chez Ferial. Ça, c'est un élément qu'il faut dire. L'autre côté des Djalan, c'est que là-bas, avec la migration, avec le pouvoir d'achat qu'ils ont, avec l'argent qu'ils ont, qu'ils se sont procurés à travers la migration, ils arrivent quand même aussi à battre campagne pour des gens qui, une fois élus, arrivent quand même à les protéger contre les pratiques esclavagistes. Mais d'ailleurs, on sent quand même aussi que cela n'est pas du tout bon, l'apanage de la lutte. Hein. Il y a aussi des actions que nous pouvons voir, que nous pouvons observer. Par exemple, s'il faut construire par exemple, un hangar, on sait qui doit construire ces hangars-là, ce ne sont pas des nobles qui vont le faire, ce sont des esclaves qui vont le faire. Comme il a dit aussi, s'il y a une grande manifestation, ce sont aussi les femmes des esclaves qui viennent, qui préparent, qui cuisinent, qui font tout ce qui est nécessaire pour que l'autre puisse se sentir vraiment, sentir l'hospitalité malienne. Donc ce sont ces pratiques qui sont aussi vivaces dans ces deux villages-là, quelle qu'en soit la paix qui règne entre les deux communautés, mais de toutes les façons, dans les faits, on observe souvent la trace de l'esclavage.
On observe souvent la différence entre les
communautés. C'est ça, la différenciation, oui, qu'on crée souvent à travers l'importance ou à travers l'utilité de chacun dans la communauté.
Maître Mokhtar Mariko, vous êtes avec nous?
Oui, je suis toujours avec vous.
Alors, on sait que le Mali étant vaste, quelle différence pouvons-nous faire entre la pratique de l'esclavage au nord du pays et au sud du pays?
Je vous remercie pour cette très bonne question. Mais je voulais répondre sur les propos du représentant
rapidement,
de
l'association. Rapidement, il nous reste une dizaine de minutes.
Rapidement, parce qu'il n'a pas compris mes propos. Je suis parmi ceux qui ont le plus combattu ce phénomène au nord, à l'ouest du pays. J'ai tout simplement dit qu'il y a un problème. Quand vous partez là-bas, quand vous attendez les deux camps, vous avez l'impression que dans le camp des esclavagistes, et ils ne font absolument rien de contre, comment on appelle, aux violations des droits humains. Quand vous allez de l'autre côté, ils vous diront que non, il y a ça et ça et ça. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de pratique d'esclavage par ascendant. Que ce soit très clair.
Monsieur Lassina, vous avez compris?
Voilà.
Il dit qu'il a compris. En venant à notre question maintenant.
Maintenant, je reviens à la question. Quand vous allez au nord du Mali, la plupart des gens qui sont considérés comme des esclaves, comme l'a dit M. Dogoni, ces gens-là se complaisent dans cette attitude. Parce qu'on ne sait plus maintenant, si vous regardez sur le plan économique, qui est l'esclave de qui. Ceux qui se disent esclaves, ils viennent à l'approche des fêtes, par exemple à Bamako, dans les grandes familles de leur patron, et maintenant le patron est obligé de s'endetter pour les habiller, de les donner à manger. Donc, ceux-là se complaisent dans cette attitude et ils pensent qu'il n'y a pas de problème et que l'esclavage dont on parle là, et ils ne vivent pas ça, ils se complaisent dans cette attitude. Mais de l'autre côté, comme à Kaï, c'est là que la discrimination est très vivace. Très vivace. Et comme l'a dit le représentant de l'association, c'est clair que quand vous allez voir, quand les candidatures vont être présentées pour les forces électorales, vous allez voir que les esclaves sont discriminés. Ceux qui sont appelés esclaves par ascendance ou fils d'esclaves, ils sont discriminés. Et même maintenant, leurs droits par rapport, comment on appelle, à cet accès-là, par rapport au poste électoraux, par rapport à la chefferie, par rapport au fait même d'être un conseiller de village, donc c'est difficile qu'ils puissent accéder à ces postes-là. Et moi-même, j'ai été un moment où on avait interdit à certains d'aller enterrer leurs cadavres dans le cimetière et interdit à d'autres d'aller prendre de l'eau à la fontaine publique. Donc, j'ai dit, ces pratiques existent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À la différence du Nord, il va falloir que le Mali rentre maintenant dans cette phase-là pour l'adoption d'un texte de loi pour que toutes ces pratiques contraires aux droits humains soient réprimées. Mais n'oubliez pas qu'en amont, nous devons instaurer un dialogue entre ces communautés, comme M. Dogoni l'a dit, dans les villages de Wando, il n'y a pas de problème, parce qu'ils ont su intelligemment régler le problème. Donc il va falloir qu'à l'ouest du Mali, dans la région de Kaï, qu'on arrive à régler intelligemment ce problème et de prendre des dispositions contre tous ceux qui vont enfreindre les droits de l'homme.
Monsieur Maricot, vous gardez la parole. Déjà, il y a des procédures judiciaires en cours. Selon vous, est-ce que ça peut être une solution à ce phénomène-là?
Bon, la procédure, je dis, le tout justice n'est pas la solution. C'est-à-dire, mais quand même, il faut que l'État montre souvent ses muscles pour que certaines pratiques s'arrêtent. Mais tout ce que je voudrais maintenant, c'est d'instaurer un dialogue entre ces communautés. Parce que vous allez prendre tout un village, le mettre en prison, à l'air sorti, ils vont encore essayer de se venger. Parce que ça va, grandir le fossé entre ces deux communautés, ceux qui sont appelés comme esclaves et ceux qui sont appelés comme maîtres d'esclaves. Ils sont dans le même village, mais on risque, pour la répression, on risque de scinder ce village en deux, et cela n'est pas bon pour le Mali.
Merci beaucoup, Maître Mokhtar Maricot. Lassina Konaté, vous venez d'entendre Maître Mokhtar Maricot et Dr Dogoni. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ce problème-là? La solution peut être quoi?
Bon, la solution, ça peut être une loi quand même qui criminalise cette trique-là. Et deuxième chose, il faut qu'il y ait un dialogue entre nous-mêmes, entre soi-disant les maîtres et ceux qui considèrent comme esclaves aussi, pour qu'il y ait un dialogue entre nous. On s'assoit une table ronde de dire, on parle ensemble pour que nous-mêmes on peut mettre fin à ce phénomène-là.
Avant mais d'aller si déjà il y a tension entre vous, est-ce que c'est possible que vous vous asseyez pour parler? Est-ce qu'il n'y aura pas la nécessité de mettre un arbitre entre vous?
Oui, mais il y a tension, mais toujours on peut faire le dialogue entre nous. Parce que toujours, ceux qui considèrent comme esclaves, nous toujours, s'il y a un affrontement, nous, on va essayer de ne pas être liés. Parce que, quelle que soit la difficulté, nous, on a eu beaucoup de difficultés. Si on veut maintenant, nous-mêmes, on veut le dialogue là. J'espère que soi-disant le maître, ça ne veut pas être difficile entre nous pour installer ensemble, de discuter ensemble. J'espère que ça ne sera pas pour nous.
Et les dossiers qui sont au niveau de la justice, quel regard avez-vous là-dessus?
Bon, il y a beaucoup de dossiers qui sont au tribunal de justice, il y a plein. Mais on veut toujours dialogue, mais tout ce qui est au niveau du tribunal quand même, nous on veut quand même un jugement clair et il faut que ça soit jugé comme il faut. Voilà, tout ce qui est au niveau du tribunal, voilà, comme une plainte au consort.
Docteur Yacouba Dogoni, la dernière question sera à vous. Que faut-il faire aujourd'hui pour faire face au problème?
Bon, moi je pense qu'il y a eu des recommandations qui ont été sorties de nos études. Moi je voudrais partager certaines de ces recommandations-là. Mais je vois qu'on n'a pas assez de temps pour cela. Mais ce que moi je peux dire, c'est d'abord de repenser les approches. Les approches dans la lutte contre l'esclavage. Pour ce faire, moi je pense qu'il faut travailler d'abord à ce que les gens soient émancipés sur le plan économique, socialement, qu'ils soient très visibles et qu'ils arrivent vraiment à créer des conditions d'affranchissement pour ces individus-là. Ça, c'est d'abord cela. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est aussi de lutter contre la surproduction. C'est ce que M. Konaté vient de le dire. S'il y a des affrontements ou s'il y a des cas de violence, qu'on limite la diffusion de ces images-là, qui sont pour moi des images propagandistes, qui ne fait qu'aggraver la situation. Il faut vraiment lutter contre cela. Et aussi d'envisager d'autres manières d'aborder la problématique de l'esclavage. Parce que ce que
merci
nous voyons...
Merci beaucoup, docteur Yacouba Dogoni. Le temps imparti est terminé. Et c'est ce qui met fin à notre émission Le Grand Dialogue de ce soir, dont le thème central est esclavage. Quelles sont les limites des mesures prises pour faire face au phénomène? Ils étaient avec nous, docteur Yacouba Dogoni, sociologue et chercheur, maître Mokhtar Maricot de l'AMDH, Lassina Konaté de l'association Gabana. Au son et à la vidéo, il y avait Salim Djouara et Mamadou Ouattara. Je suis Mariam Maïga, auditeur, auditrice, téléspectateur. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Dimondi.
Chien Nibiri. Sigi Kafoba.